BW. Vue d'Allemagne.
C'est éminemment dramatique.
La personne qui se décide pour un avortement est criminalisée.
Légaliser l'avortement. Une pétition signée par des dizaines de milliers de personnes vient d'être remise à des élus en Allemagne. On revient sur ce débat dans un instant. Et c'est justement à eux que s'adresse cette pétition, les élus du Bundestag. Leur moyenne d'âge a baissé avec les dernières élections. On entendra les projets, attentes et espoirs de ces jeunes, parfois très jeunes, élus dans 5 minutes. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, bienvenue, los geht's, c'est parti. Un article de loi vieux de 150 ans cette année, un autre hérité de l'époque nazie, base de la législation sur l'avortement. Voilà contre quoi se battent des femmes en Allemagne en 2021. C'est dans ce cadre que 110 000 personnes viennent de signer une pétition initiée par le collectif pour l'autodétermination sexuelle. Pétition pour demander la suppression donc des paragraphes 219A et 218 qui encadrent la législation sur l'avortement dans le pays. Car en Allemagne, l'avortement jusqu'à 12 semaines est dépénalisé sous condition, mais officiellement toujours illégal selon l'article 218. Adriana Beran, co-initiatrice de la pétition à Berlin, explique.
Le paragraphe 218 dit qu'une personne qui avorte une grossesse sera condamnée à une peine d'emprisonnement ou une amende. Ça veut dire que l'avortement est illégal. Il y a cependant des exceptions avec lesquelles l'avortement est possible et dépénalisé. Mais ce qui est dérangeant, c'est que l'avortement en général est toujours punissable et qu'on criminalise ceux qui se décident à interrompre une grossesse.
Dépénalisé mais pas légalisé donc, et quand une femme se décide pour un avortement, elle doit suivre certaines règles. Un parcours du combattant, estime et raconte Christine Schmidt, membre du collectif pour l'autodétermination sexuelle aussi, elle, à Münster, dans l'ouest du pays.
Le premier pas consiste à faire confirmer la grossesse par une ou un gynécologue. Ensuite, la femme doit s'occuper de trouver un rendez-vous dans un centre pour cela, public ou religieux. Là, elle doit alors expliquer à une personne qui lui est complètement étrangère qu'elle ne veut pas de cet enfant, qu'elle veut avorter, donner ses arguments. À ce moment-là, le centre doit alors aussi présenter les possibilités de poursuivre la grossesse. On doit donc bien se justifier. Et puis ensuite, on reçoit une attestation. Et avec cette attestation et celle du ou de la gynécologue, on peut se mettre à la recherche d'un médecin qui réalise des avortements. Et si on a de la chance, à un moment donné, on a enfin trouvé ce médecin.
Médecin pas toujours simple à trouver, car ceux qui acceptent de réaliser des avortements ne sont pas répertoriés. La publicité, c'est le mot officiel, est interdite. C'est le paragraphe 219A dont on parlait il y a quelques minutes. Tout juste depuis 2019, après un petit changement législatif, les professionnels de santé ont le droit d'écrire sur leur site si ils ou elles réalisent des avortements. Mais c'est tout, aucune explication sur les méthodes pratiquées n'est autorisée. Quoi de la tradition oblige, de l'Église catholique. Pour tout un tas de raisons, en fait, les oppositions à tout changement sont encore nombreuses en Allemagne. Ce qui fait qu'in fine, malgré la loi, de nombreux médecins n'osent même pas écrire qu'ils ou elles font des avortements sur leur site ou même en réaliser. À Münster, ville de plus de 300 000 habitants, Christine Schmidt raconte que les professionnels qui acceptent de réaliser des avortements se comptent sur les doigts, et encore pas tous, d'une seule main.
On avait fait un sondage auprès des médecins de la ville pour demander pourquoi ils ne font pas d'avortement. Ils disent ne pas vouloir être stigmatisés, ne pas vouloir être vus comme un cabinet d'avortement et perdre leurs patients.
Des docteurs ont déjà été condamnés d'ailleurs pour publicité sur leur site. Des conditions et un cadre de soins inacceptables pour les femmes qui ont besoin d'aide, dit Christine Schmidt.
Psychiquement, c'est très lourd, toute cette procédure. Il faut expliquer ses pensées les plus profondes à deux personnes qui vous sont complètement étrangères. Il serait souhaitable que ce soit possible simplement chez son médecin habituel. Ça conduit à un profond désarroi. Dans notre Land, notre région, le gouvernement estime que faire jusqu'à 150 km autour de votre domicile pour trouver un médecin pour un avortement, c'est acceptable. Ça veut dire que quelqu'un sans voiture doit prendre les transports en commun plusieurs heures et plusieurs fois. C'est éminemment dramatique.
Elle s'ajoute à cela pour les patientes le fait que les caisses d'assurance maladie ne prennent pas en charge l'avortement. Cela coûte jusqu'à 600 euros. Des aides existent pour les plus pauvres, mais ce sont encore des démarches en plus là. Alors interdisons donc les 100 000 avortements réalisés par an en Allemagne, disent les opposants, ça réglera les problèmes. Cela ne changera rien aux problèmes de santé publique, leur répond Adriana Beran.
Si on regarde dans le passé, il y a toujours eu des avortements. On avait avant en Allemagne ce qu'on appelait des faiseuses d'anges, des femmes qui faisaient des avortements de façon illégale, en mettant en danger leur vie et celle des femmes enceintes. Des femmes en sont mortes car les conditions d'hygiène étaient très mauvaises. Il y aura toujours des avortements. Les interdire n'est pas la solution.
Et dans le monde, l'OMS estime qu'au moins 25 millions d'avortements non sécurisés, c'est-à-dire dangereux pour les femmes, sont réalisés chaque année. En Allemagne, les trois partis qui devraient former le prochain gouvernement semblent désormais d'accord pour supprimer dans les années à venir le paragraphe 219A interdisant la publicité aux docteurs. En revanche, les défenseurs des droits des femmes sont plus sceptiques concernant une éventuelle suppression à venir du paragraphe 218, celui qui, de fait, sur le papier, rend donc toujours l'avortement officiellement illégal.
Je crains qu'on doive batailler encore longtemps et redescendre dans la rue.
Darf ich sagen, dass man krank wird vom Impfen?
Warum denn nicht? Wo ist das Problem?
Darf ich Waffen exportieren, auch in Kriegsgebiete?
Es gibt immer einen Weg, das zu tolerieren.
Darf ich Glyphosat in die Umwelt sprühen?
Das wird verboten, aber erst in ein paar Jahren.
Darf ich Schweine so halten, dass sie sich nicht bewegen? Ja. Darf ich zwei Hosen kaufen für 8,10 Euro? Ja. Darf ich Fan von Schalke sein und vom BVB?
Also gesetzlich ist das okay.
Und wenn ich Frauenarzt oder Ärztin bin,
ja,
und auf meine Seite schreibe,
was?
Dass und mit welchen Methoden,
ja,
ich in meiner Praxis abtreibe.
Was? Was? Sie stehen wo? Das ist verboten.
Chanson satirique de la rappeuse allemande Fiva et de l'actrice Maren Kreumann dans son émission télé. Les deux dénoncent le fait qu'on puisse dire que les vaccins rendent malades, vendre des armes de guerre dans des régions en crise, mais pas écrire sur son site quel type d'avortement on réalise en tant que médecin. Vue d'Allemagne, deuxième partie, on attend toujours le nouveau gouvernement pour la République fédérale. C'est Olaf Scholz du SPD qui devrait devenir chancelier selon toutes les prévisions et les négociations qui se tiennent en ce moment. Ce qui est certain en attendant et qu'on peut dire là en toute sécurité, c'est que le Bundestag, le Parlement allemand, est plus jeune que jamais depuis les dernières élections de septembre. L'âge moyen des députés a baissé de 3 ans, de 49 à 46 ans. Il y a même des très jeunes élus, vous allez l'entendre. Alors quels sont leurs objectifs? Que peuvent-ils apporter pour le Bundestag et la démocratie allemande? Reportage à Berlin de Niklas Mansch.
On est au Bundestag, le Parlement allemand. À seulement 24 ans, Jakob Blankenburg est le plus jeune député avec un mandat de circonscription. Il affiche une belle image de parlementaire. Chemise blanche, pantalon repassé, il alterne déjà entre la langue de bois et un ton léger. Être un parmi les 736 le rend fier.
En fait, personne n'a le droit d'entrer dans l'hémicycle, sauf les députés. Donc pour moi, c'était vraiment la première fois. Se rendre compte que cela sera mon lieu de travail pour les 4 prochaines années, c'est vraiment spécial. Parce qu'au cours des dernières décennies, les sièges ont été toujours occupés par des personnes qui ont pris des décisions pas faciles à prendre. Et c'est un grand honneur.
Il vient de Lüneburg, au nord de l'Allemagne. Déjà pendant sa scolarité, il commence la politique, d'abord chez les jeunes socialistes, puis au conseil municipal. Maintenant, il veut défendre les intérêts de sa génération depuis Berlin.
J'ai toujours fait de la politique à titre bénévole ces dernières années. Et ainsi, j'ai assez vite compris que si je voulais que les choses qui ne me plaisent pas changent, je devais provoquer ces changements et j'ai donc adhéré au SPD. Après, je me suis assez rapidement rendu compte, ok, ici, tout le monde est relativement âgé et si je veux faire passer mes thèmes et mes idées, il faut des jeunes ou au moins des personnes dont les préoccupations sont plus proches de ces problèmes. c'est-à-dire les écoles, les transports en commun, la question des logements abordables.
Mais au début, son jeune âge n'a pas toujours été un atout pendant la campagne.
Au début, les gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui lui? Et je peux comprendre pourquoi. Si on s'imagine un homme politique typique, c'est souvent un homme de plus de 55 ans, avec peut-être déjà quelques cheveux gris. Je suis bien sûr tout le contraire de cela. Mais les premiers jours, les premières semaines passées, j'ai remarqué que les gens s'ouvraient. En discutant avec les nombreuses personnes, en faisant du porte-à-porte au stand d'information que nous avons tenu pendant la campagne électorale, il en est toujours ressorti une chose. Beaucoup de gens veulent un changement et un renouveau.
Et quand on lui pose la question s'il faut des jeunes pour représenter la jeunesse, il répond
« Cela ne sert à rien de n'avoir que des personnes âgées. Nous avons aussi besoin d'eux, car ils ont déjà une grande expérience de vie. Mais, d'un autre côté, nous avons aussi besoin de personnes qui peuvent s'occuper des problèmes des jeunes. Ce n'est pas que les personnes âgées ne puissent pas le faire, mais c'est encore autre chose quand on entend parler des choses et qu'on veut les mettre en œuvre, ou quand on vit vraiment la même réalité. C'est pourquoi je pense qu'il est bon pour la démocratie que ma génération siège ici. Et je n'ai pas non plus la prétention de faire de la politique uniquement pour les jeunes. Au contraire, beaucoup, beaucoup de gens ont voté pour moi et aussi des personnes plus âgées.
Jacob Blankenburg fait partie des 50 députés qui ont moins de 30 ans. Même si cela ne représente que 6% du Parlement, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Par exemple, quand Angela Merkel a pris le pouvoir il y a 16 ans, ils n'ont représenté que 2%.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, das
Avec ses 80 ans, Wolfgang Schäuble est le deuxième plus vieux député. Il est membre du parti conservateur CDU et il a aussi été président du Parlement. Il y a un mois, lors de son discours inaugural devant la nouvelle Assemblée, il rappelle que les députés doivent servir tous les Allemands.
Auch wenn sich natürlich die gewachsene Vielfalt unserer Gesellschaft
Même si la diversité de notre société doit bien sûr se refléter dans la représentation du peuple, le Bundestag ne sera jamais le miroir exact de la population et celui qui assimile représentation et représentativité trouvera une multitude d'écarts flagrants. Et il favorise l'idée erronée selon laquelle les groupes sociaux ne peuvent être représentés que par leurs propres membres.
La politologue Agnes Blume de l'Université libre de Berlin avoue qu'il est difficile d'apporter une réponse claire.
En effet, il n'est pas dit que les personnes aient des intérêts ou des préférences spécifiques en matière de politique publique uniquement en raison de leur appartenance à un groupe social. Un intérêt commun naît par exemple des expériences qu'un groupe connaît en raison de ses caractéristiques, par exemple la discrimination, mais il est difficile de dire si cela s'applique aussi aux jeunes.
En revanche, on peut faire un parallèle avec l'arrivée des femmes au Bundestag.
Mais au moins pour le groupe des femmes, qui est assez bien étudié, nous voyons que le fait d'avoir plus de femmes au Parlement fait une différence. Par exemple, d'autres thèmes sont inscrits à l'agenda politique, le style politique change et cela a aussi une fonction de modèle. La société voit ainsi que les femmes aussi peuvent faire de la politique et occuper des postes importants, et c'est tout aussi vrai pour les jeunes, je pense.
Si tous les jeunes ne partagent pas forcément les mêmes intérêts et points de vue, leur présence renforce leur visibilité. Leurs idées sont entendues. Bref, un Parlement plus diversifié apporte un nouveau souffle à la démocratie. Et de la diversité, il y en a de plus en plus. Deux députés transsexuels, une députée en fauteuil roulant et plusieurs nouveaux membres de la diaspora africaine font leur entrée au Bundestag. Parmi eux, Armand Zorn, originaire de Cameroun, et Awet Tesfayesus, née en Érythrée, la première femme noire au Bundestag. Niklas Mönch, à Berlin, pour la Deutsche Welle.
Niklas Mönch, qu'on remercie. Et c'est avec ce reportage que se termine Vue d'Allemagne pour cette semaine. Émission à retrouver en longueur et à partager en podcast sur le site de la DW. Prochain numéro la semaine prochaine. Et d'ici là, alles Gute, tout bon, bonne semaine. Tschüss!